sono il fortunato ragazzone, recente acquisto dell'umanità. Ho una superba faccia da frescone, esuberante imbecillità. Sportivo a tempo perso, un po' monello, con la pipetta in bocca me ne vo'. Matteggio a prepotente, a picchiatello, poi saputello, eppure nulla so. Io sono il piccolo Marcello, baffutello e sbarbatello, sfrontatello e spacciatello.
Marcello!
Sono più leggero di un fuscello, più prezioso di un gioiello, più innocente di un porcello.
Marcello!
Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù. È strano, lo so, ma un fascino, no, ce l'ho, ce l'ho, ma chi per bimbingina che ce l'ho?
Marcello,
son fatto come un venticello, lieto come uno stornello, fesso come un somarello.
Marcello,
col microscopico cervello, più piccino di un pisello, penso solo che sono bello, sono il bello di mamma. Ormai con la bellezza solamente si può germire la celebrità. Sono molto noto infatti alla gente che come me non tiene a che pensare. Io so cantare come Rappagliati e vesto con quel certo non so che. Ho gusti delicati e raffinati, vorrebbe ognuno somigliare a me.
Marcello,
tutti mi chiedono il modello della giacca, del cappello, del colletto e dell'ombrello.
Marcello,
mi copiano tutti questo quello, dalla scarpa di vitello al mio passo di cammiello.
Marcello,
Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù, non vedo che me, non so neanche me. Marce, Marce, ma Marce, beh, che c'è?
Marcello,
si è mezza voce canterello, qualche sciocco ritorniello, canton tutti solo quello.
Marcello,
Marcello, ma soldato questo quello, ma sta a casa ogni or Marcello. Perché son bello, sono il bello di mamma.
Bonsoir e benvenuti su Radio Calère, vous êtes à l'écoute de moi, Simone. Sono in missione, Nino, domani a Palermo. Le premiere, tu sembri un du moi di Twitter su Radio Galère 88.4 FM. Vous pouvez aussi écouter les podcasts nelle rete pas, si vous avez raté les émissions précédentes sul le site radiogalère.org. Entend pas le nom de l'émission, Nino domani a Palermo. On revient dans cette émission à parler du grand philosophe Galileo Galilei. On avait dit la dernière fois, on était resté qu'il était revenu à Florence, à la cour du Grand-Duc en 1610, avec le titre de mathématicien de cour et philosophe. On avait expliqué pourquoi cette exigence d'être aussi philosophe. On avait dit, pour reprendre un peu, que Galileo c'est un grand philosophe, il est le père de la modernité. Non seulement pour ses découvertes scientifiques, mais aussi pour son méthode scientifique, et méthode qui est toute une chose avec l'utilisation d'une nouvelle langue, la langue qui est le vulgaire italien, qui est plus le latin des traités scientifiques, une langue qui est mordant, une langue qui se sert de la polémique, se construit souvent sur le dialogue pour pouvoir répondre à ses adversaires. Et une langue qui lui permet d'impliquer un public toujours plus large, un public quand même qui est les classes dirigeantes, mais non seulement. Il parle une langue qui peut être comprise par tout le monde. Il est plus proche de Manzoni, un intellectuel italien du 19e siècle, qui le sont contemporains d'une génération antécédente, Tasso ou Ariosto. Et on revient on a dit que Galilée, il était à Florence, il revient à Florence, il s'engage dans une polémique sur les corps fortins, sur les poids spécifiques, le cardinal Matteo Barberini de montre son sympathie pour Galilée. Et à part cette polémique-là, en 1612, on a un'altra polemica, che è la polemica sulle tâche solaire. On va dire che Galilei è un personaggio che è un continuo, come dire, l'idea di un continuo confrontazione avec ses adversaires. Le dialogue, la polemica, c'è qualcosa che vraiment caratterizza le personaggi di Galilei. Et Christophe Schneider, avec le pseudonyme d'Apelle, Apelle c'était Apelle latens post tabulam, ça veut dire Apelle caché derrière les tableaux, derrière les peintures. Et c'était un peintre, en fait. Avec ce pseudonyme d'Apelle, qui c'était cet artiste qui se cachait derrière ses propres peintures pour écouter les commentaires. Donc, c'est Christophe Schneider écrit trois lettres adressées à Mark Wessler. Mark Wessler, c'était une personne hyper puissante de l'époque qui est membre de la République des Lettres. On a dit que la République des Lettres, c'est quelque chose de proche à la réforme qui réunit un peu tous les intellectuels européens. En 1612, il est aussi invité à faire partie de l'Académie des Lincées. Apelle, il voyait les tâches solaires comme des corps célestes entre la Terre et le Soleil. Galilée, par contre, il voit dans les tâches solaires ce qui sont effectivement qui sont des concrétisations sur la surface du Soleil. En 1612, Galilée écrit trois lettres à Wessler. C'est des lettres dans lesquelles il y a beaucoup de circonspection pour la dangerosité du sujet. On a dit que selon l'Église, la théorie de la portée des ciels, le soleil donc doit être plus il peut power des tâches selon la théorie aristotélicienne péripatricienne. D'un côté il y a cette circonspection pour la délicatesse du sujet, de l'autre côté il y a cette circonspection parce que Wessler est vraiment une personne très puissante dans l'Europe de l'époque. Donc l'Académie des Lincées va publier ces lettres de Galilée dans l'espoir que l'Église puisse s'ouvrir à la nouvelle science, alle nouvelle théorie scientifique, aux nouvelles théories scientifiques. Donc, dans ces trois lettres de 1612 de Galilée, pour la première fois, Galilée parle du livre de la nature. Je vous ai déjà parlé du livre de la nature. Le livre de la nature, ce n'est pas un livre qui existe réellement, c'est plutôt le langage qui est parlé par la nature. Et Galilée dira que ce langage qui est parlé par la nature, il ne peut pas être écouté, peut pas être interprété que par Aristote. Parce que Aristote, oui, il est un grand philosophe, mais il n'a pas. Ses yeux, ils n'ont pas pu voir tout pour la postérité. Et le livre de la nature, il parle le langage de la mathématique, donc un langage rationnel, non de la logique du syllogisme. Un langage rationnel, mais qui donne l'évidence à la nature, qui se base sur l'expérimentation. On dit que Galilée, en 1605, il est déjà membre de l'Académie della Crusca, l'Académie della Crusca, donc qui c'est la plus grande académie pour la langue italienne, pour la défense de la langue italienne. Et donc il fait le choix de l'italien comme langue officielle pour diffuser ses théories. Et d'un côté, comme on a dit, l'italien pourquoi? Parce que ses théories peuvent être vérifiées par une plus large communauté. La vérification c'est un peu à la base de la méthode scientifique de Galilée contre la ténèbre de l'ignorance, du syllogisme où la vérification c'est pas quelque chose d'essentiel, on se base sur la logique pure et dure. Et Ce qui, à propos des tâches solaires, je vous propose d'écouter, c'est une chanson qui c'est un tube des années 60 italiens, mais cette fois il est chanté, remixé plutôt, par un groupe, je ne sais pas si c'est finnois, mais sûrement della sfera ex sovietica, Vinay e Awak. On écoute abbronzatissima, tre bronzé, vuoi dire, a proposito di tâche solaire. Un, deux, trois, à l'écoute. Voilà qu'on revient à nous et on passe à un autre, on va dire, une autre phase essentielle du parcours de Galilée, et c'est ce qu'on appelle les trois lettres coperniciennes, écrites entre 1613 et 1615. Alors, pourquoi ces trois lettres coperniciennes? Parce que maintenant, vu les découvertes faites par les lunettes, donc publiées dans le Sidereus Nuncius, qui c'est un succès international, vu l'évidence des théories coperniciennes, vu l'évidence même du travail de Kepler, vu l'évidence du travail de Galilée, maintenant c'est arrivé le moment de se manifester pour Galilée et dire écoutez, on n'est pas géostatique, on est dans l'héliocentrisme, la Terre fait un mouvement diurne, donc c'est venu le moment de, pour Galilée, se manifester. Donc, il y a de plus la duchesse, la grande duchesse, la mère, Catherine de Lorraine, qui dit, mais écoutez, le théorie de la nouvelle science sont en contraddiction avec la théorie de la Bible. Et se développe cette polémique à l'intérieur de la cour du Grand Duc de Toscane. Et donc il y a une première lettre qui è Galilée è adressée a Castelli. On a vu che Castelli se ne sono élève. Qui après deviendra un grand professeur de la sapience, aussi un grand scientifique qui développera la théorie galiléenne. Donc, cette lettre adressée à Castelli, il y a une première partie qui est le rapport entre la nature et la Bible. Et la deuxième partie, que c'est le passage biblique de Jésus, où Dieu arrête le soleil. Galilée utilise cet passage biblique qui est quelque chose qui voulait expliquer la théorie aristotélicienne. Il la transforme, il s'approprie de ce passage biblique dans une interprétation copernicienne. C'est là qui les Dominicains Tommaso Caccini e un altro personaggio, Niccolò Lorini, il definì Galilei come un eretique, che va a pervertire le dogma dell'Eglise, donc, l'eurocentrismo. Galilei il va a pervertire, ma lì piuttosto utilizza le mo adombrare il dogma. E adombrare sa dire mettere an ombre le dogma. E se de là chi ne la deuxième lettre, après l'attacco de Caccini, Dominicain Tommaso Caccini e Lorini, chi definì Galilei d'eretique, se de là chi Galilei écrit la deuxième lettre, cette fois adressée a Piero Dini, che è le referendaire apostolique. Galilei, dans sa deuxième lettre, envoie un copie de la lettre à Castelli pour démontrer les accusations qui lui sont faites sont fausses. Et de l'autre côté, demande de transmettre la lettre au cardinal Bellarmino, che on a déjà vu, et au jésuite Greenberg, qui avait montré de la sympathie pour l'eurocentrisme, ces jésuites-là. Dini, avec des personnages comme Cesi, les parents Cesi, qui on a dit qui c'est le chef, on va dire, dell'Accademia dei Lincei, e d'altro personaggio come Ciampoli, che è un frolentin brillant che farà un carriera prestigiosa dans la curie, che après on verrà, sarà lì o procede Galilei, le vrai procede 1633. Donc, Dini invite avec ces trois personnages la nécessité de la prudence. Dini suit l'approche du cardinal Maffeo Barberini, qui, comme on a dit, avait déjà démontré de la sympathie pour Galilée dans son discours pour les choses qui sont sur l'eau, la polémique sur les consultants. Et donc, Dini et Barberini disent il faut parler prudemment, il faut parler comme un professeur de mathématiques. E non pas come un filosofo antologista. A 1615, le Père Carmelitain Calabre Paolo Antonio Foscarini, il écrit un livre dans lequel il dirà che Copernic n'est pas en contradiction avec l'Église. Ses œuvres, qui s'appelle Lettera sopra l'opinione dei Pitagorici di Copernico, Lettera sull'opinione dei Pitagorici et de Copernic, est adressé à beaucoup de personnages milanais de l'époque, entre lesquels Galilée et Bellarmino. Bellarmino répondra au Carmelitain Calabré qui Copernic procède ex suppositionem et non de façon absolue. Ça veut dire que les idées coperniciennes sont des idées qu'il expose d'une façon, comme une supposition. Ce ne sont pas des théories absolues comme les dogmas aristotéliciens de l'Église. Donc, la thèse de Bellarmino est que l'hélocentrisme essentiellement est indémonstrable et il faut se contenter des idées reçues par Aristote. La troisième de ces lettres est finalement adressée à Christine de Lorraine, qui est la grande-duchesse mère. Dans cette troisième lettre, il y a déjà une économastique une économastique de l'évolutionibus de Copernic. On dit qu'il était sollicité par le pape, et c'est pas vrai, et il y a d'autre côté un attaque violent au sermon contre lui, au sermon qui les dominicains Tommaso Caccini avait fait contre lui. Et après, il dira dans cette lettre, l'intention dello Spirito Santo non è indicare come vanno i cieli, Ma come si va in cielo? Dunque, l'intenzione dell'Esprit Saint se pas indiqué come il bon le ciel, ma come il bon, come on va dans le ciel. Chi può vietare agli uomini di alzare la testa al cielo? Chi può empêcher aux hommes de soulever la tête au ciel? Dunque, il y a una situazione dangereuse, c'est pour ça que la lettre ne sera pas publiée. E Galilei, il se tient un peu. Il se tiampe, come dire, suspettie par rapport a ses lettres, par rapport a ses idee, perché la situazione sta diventando difficile, in fait. E allora, on repara sur, sur la. Un periodo, come dire, un periodo che va un po'. Prévenir-se qui sera le procès, le vrai procès de 1633. Et pour faire cela, on doit d'abord parler de Copernic. Copernic, il naît en 1473 dans une actuelle région de la Pologne, mais il se considère un Prussien. En famille, il parle allemand. Copernic, il est un catholique. Et il travaillera toute sa vie dans l'administration des biens de l'Église. Il se forme même en Italie à l'université à Bologne. Donc, il est un intellectuel plutôt discret, même pour son travail, il est porté à être plutôt discret. Mais il fait des découvertes incroyables. Et en 1514, il écrira ce qu'on appelle les commentaribus, commentariolibus. Commentariolus, pardon, ça veut dire le petit commentaire. Le titre entier sera dei potentibus motum celestum a se constitutus commentariolibus. En 1539, il y aura un mathématicien protestant, appelé Rheticus, qui propose, qui étudie les œuvres de Copernic et les charmes pour les œuvres de Copernic, et il propose de gérer et de publier les œuvres de Copernic. Et comme ça, en 1543, il publiera Rheticus l'œuvre Summa de Copernic, qui est De Revolutionibus. Le titre entier est De Revolutionibus Orbit, Orbitum Celesti, Des Orbites Celestes. Le Revolutionibus, la révolution, les motes, la révolution, c'est le mouvement des orbites célestes. Ça, c'est l'œuvre fondamentale. C'est un traité scientifique, très théorique, dédié aux scientifiques, qui expose la théorie copernicienne de l'héliocentrisme. Ça, c'est à la base de toutes les découvertes, de tous les phénomènes scientifiques et astronomiques étudiés par Kepler, étudiés par Galilée. Ça, c'est la base de tout. Il faut dire que, Copernic, pardon, que la préface de ce livre-là, la préface de la Revolutionibus, sera écrite par un collaborateur de Rheticus, qui c'est Andrés Osiander. Lui aussi c'est un protestant, Osiander. Luther, il était contraire au centrisme. Donc, en tant que protestant, Osiander, il écrira lui-même cette préface al lectorium de Hypotensibus Iuius Operas, simplement appelé ad lectorium cette préface, et dans cette préface, il dira que l'héliocentrisme est une hypothèse purement mathématique. Cette préface anonyme, avec le temps, on pense qu'elle était écrite directement par Copernic. Donc, ça sera un argument après, de laquelle l'Église se servirà pour dire que Copernic fait des suppositions simplement mathématiques. Il procède ex suppositionem, comme disait le Cardinal Bellarmino e non de façon absolue. Après cette lettre, il y aura, après cette préface, il y aura un lettre cardinal dédicacé au cardinal Schoenberg, et après il y aura la vraie dédicace du livre, qui c'est la dédicace au pape lui-même, Paul III, Paolo III. Et dans cette dédicace, il est souligné l'autonomie de la théologie par rapport à la science. Et alors, se dedicasse a Paul III, all'epoca le livre venne dedicasse, si le dedicatere accettè la dedicasse. Le fait qu'il la dedicasse a Paul III e accettè par le pape lui-même, naturellement confère une importance énorme au livre de Copernic et à ses théories héliocentriques. Et l'Église, après, pour cette dédicace-là, se trouvera en grande difficulté à nier ou à juger Galilée sur l'héliocentrisme. Donc, pendant la période copernicienne, on assiste, on a dit, à la lutte à l'hérésie luthérienne. Donc, on est dans le climat della contre-réforme. Maintenant, on va aborder un autre sujet, et c'est le sujet de l'inquisition. Qu'est-ce que c'est l'inquisition? L'inquisition, ça vient du latin inquisitio. Inquisitio, c'est rien d'autre qu'une méthode processuelle. C'est un indage conduite par un juge. Le juge rappresente la communauté e costituit l'accusation publique, on va dire. Cette méthode, il est encore adottée en France. Il était adotté en Italie jusqu'à 1988. C'est une méthode qui était maintenant abandonnée en Italie, l'Italie est retournée à une méthode un peu comme dans l'ancienne Rome, où il y a l'accusé qui paye son avocat, et il y a la personne qui est accusée, l'accusé qui paye son avvocat, il n'y a pas un public accusé, ma il y a un privé qui fait l'accusation. Donc, on est retourné à un système payant, on va dire. Ce n'est pas l'État qui se porte garant d'une accuse publique. Au Moyen-Âge, cette inquisition, cette méthode où l'État, la communauté se portait garant de l'accusation publique, c'était rien d'autre qu'une défense pour les pauvres. Parce que, à différence du seigneur, les pauvres ne pouvaient pas se payer, comme on avait dit l'avocat, à différence du seigneur qui pouvait se payer un bon avocat et donc aller gagner sûrement la cause, aller gagner le procès. Mais cette façon d'avoir une accusation publique, une accusation de la communauté, sera quelque chose utilisé par les seigneurs même dans l'âge communal, donc au Moyen-Âge en Italie, pour lutter contre ses propri ennemis. La même chose farà l'Église avec l'Inquisition, qui lutterà avec cette pubblica accusation contre ses propri ennemis. Et alors, on a expliqué ce que c'est l'inquisition. Donc, c'est une méthode judiciaire, on va dire. Dans l'inquisition, on a un juge d'instruction, un assureur, che è ce qui enregistre les procédures, on peut l'appeler un chancelier, et après, on aura un notaire. Un notaire, il authentifie l'authenticité des actes. Normalement, c'est le fonctionnaire le plus âgé. Après, il y a des jours dans lesquels les cardinaux se réunissent. Le lundi, que c'est la feria seconda, où les cardinaux se réunissent pour préparer le travail. Après, on a la mercredi, qui est la feria quarta. Les cardinaux s'empapent sulla présence du cardinal plus âgé. On a le jeudi, qui est la feria quinta. On est en présence du pape. Les cardinaux plus éminents et les cardinaux secrétaires, dans ces cas-là, dans les cas des accusations qui sont Fetta Galilei sarà le cardinale segretario sarà Giovanni Grazia Mellini, chi sei ampesse lui chi condui tu l'accusazione. Apreona ha un altro sciosa retenir chi sei la congregazione segreta. Se là la congregazione segreta, vuol dire, se là chi si riunì le pape plus le cardinò ha una usanza de funzionare. Allora, il faut dire che nel 1512 l'Eglise avrei costituito l'index librorum prohibitorum ut pestiferatum opinionem, se vuol dire l'index dei libri proibì pur ne pa diffusere le opinioni pestifere. On l'ha per semplicemente l'index. Se l'index dei libri interdì, se te l'index se te cordonè parla Sant'Office d'un côté, donc parla Inquisition, e dell'autre côté pour le maître du sacre palais apostolique, che se le théologiciens du pape, che se le secrétaire, le conseillère permanente de cette congrégation. Donc, avant le procès, le vrai procès, on avait des procédures. On avait le commissaire qui dialogue de façon informelle avec l'accusé et ce qui appelait la caritative ou fraterna monizio, c'est-à-dire caritative avvi. L'accusé se retratté avant le commencement de la procédure. Allora, qu'est-ce que c'est caritativa monizio? Caritativa monizio. La caritativa monizio c'est quelque chose qui se base sur le principe de la charité chrétienne. Se non la charité chrétienne, tout le monde a le droit au pardon. Donc, avant que le procès vient conduit, l'amputé pèse rétracté. C'est cette chance qu'on donne pour le principe de la carité chrétienne, pour le principe de l'amour pour le prochain. On vous laisse écouter une chanson qui nous met un peu, comment dire, nous propulse un peu. On écoute.
Vado del Messico io, altro che al mare, voglio
faut maintenant faire ce préambule-là. Faut rentrer dans l'argument. Il faut dire que Galilée, il avait eu le succès extraordinaire du Sidereus Nuncius. On a parlé du Sidereus Nuncius dell'émission précédente. Le découverte par Galilée grâce aux lunettes. Il avait eu un renommé énorme de Galilée, croissante, toujours énorme de Galilée. Une attention bienveillante du jésuite Cristoforo Clavio et Grenberg, qu'on a déjà cité. Il avait la sympathie des cardinaux influents comme le cardinal Bellarmino, le cardinal Barberini, le cardinal Borghese, etc., le cardinal Nevers du pape. Il avait eu la lettre a Castelli sur le système copernicien qui a fait dénoncer Galilée come eretique par Tommaso Caccini e par Niccolò Lorini. Niccolò Lorini si è retratto, ma le Domenichen Caccini continuano sa denunciazione. Donc, cette denunciazione-là dell'eresie de Galilée, on l'a entre décembre e mars 1615. Qu'est-ce qui arrive entre décembre e mars 1615? Le 25, pardon, décembre 1614 e mars 1615. Le 25 novembre 1615, la dénonciation de Caccini comme hérétique. Le 25 novembre 1615, il a institué une procédure contre Galilée. Galilée ne devrait pas être informé, mais il est informé et il va à Rome pour défendre ses thèses. Il va prouver la théorie des mouvements de la Terre sur son axe, pardon, à travers la théorie du flux et reflux de la mer. Il fait l'exemple d'Anseau sur un vaisseau. On imagine Anseau sur un vaisseau. Si le vaisseau bouge, l'eau qui est dans le vaisseau bougera à droite et à gauche et à la limite déborderà. Si le vaisseau reste à quai sans le moindre mouvement, l'eau resterà ferme, ne bougerà pas. Donc ça démontre le mouvement de la Terre, le mouvement diurne de la Terre. En réalité, Galilée n'explique pas les mouvements de l'eau, des marées par l'attraction lunaire. Et il n'adhère pas non plus aux orbites elliptiques des planètes qui sont des découvertes faites par Kepler. En réalité, Galilée, pourquoi ne croit pas aux orbites elliptiques? Parce qu'il croit à la libre circulation des corps célestes. Ça, contre Kepler, et l'attraction lunaire aussi faite par Kepler. Alors, après cette convocation, après cette procédure de Galilée le 25 novembre 1615, Sagredo, ami de Galilée, prévient Galilée du danger de la chose. Et même les Lincei restent vraiment silencieux sur la chose. Ils ne veulent pas se prononcer parce que la situation est désormais défavorable pour Galilée. Le 5 mars 1616, en concomitance avec le décret anti-copernicain, Galilée renonce à la pubblicazione de ses discours sur le flux et reflux des marées. Donc, d'un côté, on a l'appréciation de Foscarini, per Carmelitain Calabré, pour la théorie carmelitaine, pour la théorie copernicienne, pardon, et la sympathie du cardinal Bellarmino et du cardinal Marcello Barberini. De l'autre côté, on a les considérations non défavorables accordées à Copernic par au moins trois papes. Et on se souvient, là, comme je vous ai dit, que la délégation des dévolutions a été acceptée par Paul III, le pape Paul III. C'est une chose qui met l'Église dans une position délicate. Au début de l'année 1616, il y a le pape régnant qui est Paul V. La séance du mercredi 24 février 1616, on a la censure officielle de l'héliocentrisme. Après, le jeudi 25 février, on a l'instruction donnée au pape dans la congrégation secrète par le cardinal Bellarmino. Et le vendredi 26 février 1616, le cardinal Bellarmino convoquera Galilée pour lui donner cette caritative monition. Ça veut dire, ou tu renonces à diffuser les théories coperniciennes, ou sinon on procède au procès. Pour charité chrétienne, je te préviens, tu acceptes, sinon on fait le procès. En réalité, c'est sinon on fait le procès, ça traduit dans un preceptum, dans une injonction. Cette injonction ne resterà qu'un brouillon et sera jamais notifié à Galilée, parce que Galilée accepte tout de suite la caritative monizio. Con ça, le jeudi 3 mars, dans la feria quinta, en présence du pape, le cardinal Bellarmino rassurera le pape Paul V, sull'obéissance de Galilée. Et le jeudi 3 mars 1616, Paul V ratifiera la mise à l'index des livres interdits, des révolutionibus de Copernic. Donc, des révolutionibus de Copernic, la base de toutes les théories copernicaines, la base de toutes les théories héliocentriques, la base des études de Kepler, la base des études galiléenne sera mis à l'index le jeudi 3 mars 1616 par Paul V. Mis à l'index, ça veut dire qu'il sera pas imprimé, pas avant d'être purgé de tous les conflits contre les théories de l'Église. C'est là qui les cardinaux, on va dire, illuminés, Barberini, Bellarmino et Orsini, se batteront pour le donec corrigatur, ça veut dire se vont battre pour protéger la libertas philosophandis in naturalibus, la liberté de philosophie naturelle. Ça veut dire ils vont se battre pour la paix épistémologique et pour l'utilité de la science à la communauté. C'est comme ça qui, dans un certain sens, il n'est pas totalement interdit et après il sera republié de révolutionibus de Copernic. Paolo V apprécierà l'obéance de Galilée et concède même une audience privée à Galilée. C'est une chose unique, parce que Galilée c'était un personnage vraiment rélevant, parce que le pape, c'est rarissime que c'est des audiences privées ou à des particuliers, des personnages, à des personnes privées. Donc, dans cette audience, pour protéger son honorabilité, Galilée demandera a Bellarmino, après cette audience, Galilée demandera a Bellarmino d'écrire une lettre où il a jamais été processé, où il était jamais poussé à abjurer à des doctrines hérétiques et où il a eu jamais une imposition d'un pénitence. Alors, ce document-là jouera un rôle déterminant dans le vrai procès del 1633. Là, Maffeo Barberini rencontrera Galilée, le cardinal Maffeo Barberini rencontrera Galilée après cet épisode, on va dire, c'est pas un procès, c'est un pré-procès de Galilée, rencontrera Galilée affirmerà l'exigence dell'argument dell'absoluta potenza Dei. Allora, on vient à ça. Qu'est-ce que c'est l'absoluta potenza Dei? Il faut dire chi Barberini, Maffeo Barberini lui dit: c'est pas important comment expliquer la création de l'univers. La création de l'univers peut être expliquée d'une façon copernicienne, d'une façon ptolémique, aristotélicienne. Donc, l'important c'est qui dit crée l'univers comme il veut. Dieu crée l'univers selon sa façon. Et il ne tient pas compte des théories et des interprétations que les hommes donnent à cette création de l'univers. Parce qu'il y a une puissance absolue de Dieu. Les interprétations sont relatives. Je vous fais écouter quelque chose de pas simpliste, mais de bombastique.
Is a bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy, Mr. Lover, lover, lover. Mm. Now Mr. Lover, lover, lover. Girl, Mr. Lover, lover, lover. Mm. Now Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic, send me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Rose. Smooth, just like a silk. Soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover. Now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill. Do me, oh my, well, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young, girl who can ring my bell and I can take rejection. So you tell me go to well, I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, she touch me on my box, she says I'm Mr. Boom, 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 bombastic. Tell me fantastic. Me on my box, she call me Mr. Romantic. Tell me fantastic. She touch me on my box, she says I'm Mr. Boom, boom. Gee whiz, baby please, let me take you to an island of the sweet cold breeze. You don't feel like drive, well baby hand me the keys. And I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle my foot bottom, baby please. Don't you play with my nose, cause I'm a hachoon sneeze. Well, you are the bun and me are the cheese. And if I'm me are the rice, then baby love you the peas. I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Boom, boom, boom. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic. Me on me box, she says I'm Mr. Boom, boom. I say give me your lovin', girl, your lovin' well good. I want your lovin', girl, be it like you should. I give you lovin', girl, your lovin' well good. I want your lovin', girl, you remember the wood. You like to kiss and caress, rub down every strand of your pan bitches. I'm bombastic, rated as the best you should get. Nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address. I'll bet you confess when you put me to the test that I'm bombastic. Tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Boom. She says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic. Touch me on me box. She says I'm Mr. Bombastic. Why? Girl, your admiration, it'll lick me from the start. With some physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now go tell you no sweetheart. Now go lava, 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 la, not chat pure fart. I'll get straight to the point, like a aura dart. Come lay down on my jacuzzi and get some bubble bath. Only sound you will hear is the beating of my heart. And we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Rowe. Tell me fantastic, she tickle up my box, she says I'm Mr. Boom, boom, bastic. Tell me fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Boom. What you say, girl? Smooth.
Vanessa et je vous dis à dès lundi, comme d'habitude, sur Nino domani à Palermo. Galilée, quand même, c'est un personnage très vivant, très polémique et très vivant, qu'il se laissait rien s'échapper parce qu'il était quelqu'un de très vivant. Je vous dis à dès lundi et merci pour votre écoute. Et au revoir sur Nino domani à Palermo.
Io sono il fortunato ragazzone, recente acquisto dell'umanità. Ho una superba faccia da frescone, esuberante imbecillità. Sportivo a tempo perso, un po' monello, con la pipetta in bocca me ne vo. Matteggio a prepotente, a picchiatello, poi saputello, eppure nulla so. Io sono il piccolo Marcello, pamputello, sbarbatello, sfrontatello e spacciatello.
Marcello!
Sono più leggero di un fuscello, più prezioso di un gioiello, più innocente di un porcello.
Marcello!
Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù. È strano, lo so, ma un fascino, no, ce l'ho, ce l'ho, ma chi per dingrindina che ce l'ho?
Marcello,
son fatuo come un venticello, lieto come uno stornello, fesso come un somarello.
Marcello,
col microscopico cervello, più piccino di un pisello, penso solo che sono bello, sono il bello di mamma. Ormai con la bellezza solamente si può ghermire la celebrità. Sono molto noto infatti alla gente che come me non tiene a che pensare. Io so cantare come Raffaiati e vesto con quel certo non so che. Ho gusti delicati e raffinati, vorrebbe ognuno somigliare a me.
Marcello,
tutti mi chiedono il modello della giacca, del cappello, del colletto e dell'ombrello.
Marcello,
mi copiano tutti questo quello, dalla scarpa di vitello al mio passo di cammiello. Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù, non vedo che me, non so neanche me. Marce, Marce, ma Marce, beh, che c'è?
Marcello,
se a mezza voce canterello qualche sciocco ritorniello, cantano tutti solo quello.
Marcello,
ma soldato questo quello, ma sta a casa ogni ora Marcello. Perché son bello, sono il bello di mamma.